La relation à l'autre, à l'épreuve. Les communications d'hier ont déjà manifesté à la fois l'enjeu de la relation à l'autre, tout son potentiel, mais aussi ses difficultés. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de méditer sur une expérience particulière de la relation, celle de l'amour. Et plus encore au moment où ça va mal, quand l'amour est trahi, c'est-à-dire donc quand il n'est plus, ou quand il est dénaturé, quand il est blessé, bafoué, révoqué. Alors l'amour, comme je le disais dans le petit mot d'introduction, enfin de présentation de la conférence, l'amour c'est un mot qui a beaucoup souffert, comme le mot Dieu. Nous devons faire une analyse théologique aujourd'hui de cette relation à l'épreuve. Bien, le mot amour et le mot Dieu sont des mots qui ont souffert, qui renvoient à des expériences souvent contradictoires, au point qu'on ne sait plus trop ce que c'est, à quoi cela fait référence. On tue au nom de Dieu, mais on peut aussi trahir au nom de l'amour. Je t'aimais bien, c'était formidable, je ne t'aime plus. C'est comme ça, il faut être sincère, réaliste, etc. Vous connaissez malheureusement tout cela. Qu'est-ce que l'amour ? On disait que je vis en Belgique, j'aime les frites. Et c'est aussi la saison, j'aime les cerises. Mais bon, je crache les noyaux quand même. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Donc, nous allons méditer d'un point de vue théologique sur l'amour. Hier, c'était le point de vue anthropologique avec Marie. Et aujourd'hui, dans le même prolongement, nous pencherons sur le mystère de l'amour dans sa plénitude, c'est-à-dire pas seulement quand tout va bien, quand ça commence, quand on est amoureux, quand on est tout ému, mais aussi quand ça va moins bien, quand la relation est à l'épreuve. Le mystère aussi de la passion. Et le mot passion, ça veut dire beaucoup de choses. On est passionné, ça paraît merveilleux, mais on peut aussi souffrir la passion comme le Christ et aboutir à la résurrection. Déjà hier, on a commencé à réfléchir à la résilience et à la résurrection. Comment lire nos propres blessures, les trahisons que nous avons subies, celles que nous avons fait subir à la lumière de la passion et de la résurrection de Jésus. Alors si je reviens à mon titre, quand l'amour est trahi, eh bien je pense qu'il ne devrait jamais être trahi. Parce que la blessure de l'amour est quelque chose de très douloureux, d'insupportable. La trahison de l'amour est un scandale au sens où ça nous fait tomber, chuter. Ça nous empêche d'avancer. Ce titre évoque ce qu'il y a pour moi de pire. C'est contradictoire, trahison et amour. C'est donc ce qui ne devrait jamais arriver, absolument jamais. Quelque chose d'indépassable, d'insupportable. Une limite qui ne devrait jamais être franchie. Cela représente un absolu de non-sens, d'horreur, un peu comme une explosion atomique dans la tête et dans le cœur. Ça détruit tout. C'est une véritable mort. Et c'est pire que le néant. C'est ce que nous appelons, nous, l'enfer, quand l'amour est trahi. Alors pourquoi nous le vivons et nous le ressentons ainsi? Pourquoi est-ce gravissime? Pourquoi est-ce aussi tragique? Eh bien parce que l'amour touche à ce qui est le plus sensible. Je dirais aussi à ce qui est pour nous l'absolu. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi l'amour est un absolu et pourquoi attenter à l'amour, c'est extrêmement grave. Donc il faudrait que ce camp, quand l'amour est trahi, que ce moment n'ait jamais lieu, que ce temps-là ne puisse jamais advenir. que cette possibilité donc soit exclue, que l'on n'ait jamais à penser à l'après, qu'on reste toujours avant. Il faudrait que mon titre n'ait plus aucune pertinence parce que il y aurait une prévention qui soit parfaite, qu'on puisse obtenir le risque zéro. On me demande de préparer quelquefois des mariages, ça doit arriver ici dans la paroisse évidemment, mais peut-on vraiment préparer suffisamment? Et faut-il faire un service après-vente? Je pense que l'Église aiderait énormément si elle avait ce service après-vente, si elle pouvait aider les couples dans leurs difficultés, non pas avant le mariage, mais plus encore, enfin, bien sûr avant, mais plus encore après. Il y aurait un service social considérable. Dans certains pays, c'est mieux organisé. Les souffrances sont considérables, les dégâts sont énormes, et vous le savez aussi bien que moi. Alors comment éviter tous les risques? Comment bloquer dans l'œuf toute tentative d'attentat à l'amour? Comment établir les garde-fous nécessaires? Eh bien, malheureusement, je ne répondrai pas à cette question. Je pense qu'elle n'est même pas, il n'est pas possible d'y répondre. Parce que d'une certaine façon, il faut que l'amour puisse être trahi. On le disait hier, quand on aime quelqu'un, on dit aussi qu'on a un faible pour elle, pour lui, et que l'amour est quelque chose qui s'apparente à une blessure. Dans l'Antiquité, on parlait des flèches de Eros, de Cupidon. L'amour entraîne aussi une dépendance, donc une vulnérabilité à l'égard de l'autre. Est-ce qu'un amour sans vulnérabilité serait envisageable? Si l'on répond non, alors on comprend que protéger l'amour, c'est contradictoire. Protéger l'amour, c'est tuer l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est de la nature même de l'amour de ne pas se protéger. Un amour qui ne serait pas vulnérabilité, qui ne serait pas une forme de fragilité à l'égard de l'autre, de l'être aimé, serait un faux amour, un amour dénaturé. Est-ce qu'on peut aimer de loin? Il y en a qui se marient par Internet, par exemple. On peut étudier par Internet, on l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut aimer au sens le plus fort, simplement à distance, en restant à l'abri, en restant protégé, en haut ou ailleurs? On voit que petit à petit, nous approchons à tâtons, nous découvrons que la vulnérabilité fait partie de l'amour. Qu'il faut être proche, qu'il faut être solidaire, il faut être lié. L'amour conduit à l'unité. Et on va symboliser l'amour avec des chaînes d'or, d'argent peut-être, mais des chaînes quand même, des anneaux, des alliances. L'amour, disons-le, est une aliénation. Le mot aliénation vient de alius, qui veut dire autre. Ou bien alors on s'aime soi-même, dans un narcissisme un peu bizarre. Mais l'amour est une relation à l'autre et donc une interdépendance. Je posais la question, ne faut-il pas que l'amour puisse être trahi? Maintenant, je me demande s'il ne faut pas que l'amour soit trahi. Ne fallait-il pas que l'amour soit trahi? Nous avons donc des intuitions sur la relation profonde entre la vulnérabilité et l'amour. Et voilà que l'Évangile, pour nous, survient comme une révélation qui vient confirmer nos intuitions, qui permet aussi de clarifier pour nous ce qu'est l'amour. Et si l'on disait, on apercevait que l'amour conduit à être proche, à ne pas aimer de loin, de haut, de tout cela, eh bien comment cela se traduit pour nous dans notre foi? Eh bien, nous parlons de l'incarnation. il est venu chez les siens. Mais vous connaissez la suite. Et les siens ne l'ont pas reçu. Tragique. En tout cas, il est venu. Dieu s'est fait proche. Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait proche au point de se remettre entre nos mains. À Noël, sur la paille, et sur la croix, tout à la fin. Il s'est remis entre nos mains. Est-ce que c'est seulement entre nos mains qu'il s'est remis ? Ce qui est physique exprime aussi ce qui est moral, ce qui est intellectuel. Il s'est remis à nous, y compris maintenant où je parle de lui, avec peut-être d'énormes bêtises. Il s'en remet à moi dans une transmission, et vous en faites ce que vous voulez. Il se remet à nous sous forme de questions, on y viendra tout à l'heure, quand il demande « Pour vous, qui suis-je ?» Vous répondez ce que vous voulez. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Donc il se remet à nous. Vulnérabilité radicale. Je dirais presque scandaleuse. Acceptons-nous cela. Cette folie, dira saint Paul. Folie de la croix, sagesse de Dieu. Et on découvre, comme je le disais, cette vulnérabilité dans la confession de Pierre à Césarée, pour vous qui suis-je, quête d'identité de la part de Jésus, qui vit pleinement sa vie humaine, qui vit comme nous cette interrogation, et aussi question posée au plan affectif. Qu'est-ce que je représente pour vous ? Qui suis-je pour toi ? Quelle est la place que tu m'accordes ? Et vous connaissez la réponse de Pierre, toujours aussi fringant, rapide. Il dit « Tu es le Messie ». Et Jésus lui confirme qu'il est bon élève. Il a 20 sur 20 en théologie, en théorie. Parce que vous savez que dans l'évangile de Marc, juste après, Jésus explique qu'il va devoir, que le Fils de l'homme va être remis justement entre les mains des notables, des prêtres, des scribes, et qu'il va être jugé et malmené, supplicié. Alors Pierre proteste, comme moi tout à l'heure en début de cette conférence, je disais, il ne faudrait pas que l'amour puisse être trahi. Pierre s'insurge. Il a eu une bonne réponse au plan théorique, mais quand Jésus lui explique ce qu'il en est dans la pratique, alors on s'aperçoit que les mots qu'il a prononcés, les formules qu'il a employées, il ne les a pas comprises. Donc il n'a pas seulement zéro, moi je lui mettrai moins 20. Il n'a pas compris que Jésus ne serait pas un Messie triomphant. Il a suivi le Christ pour avoir du succès. Et je crois que dans toutes nos motivations, il y a la même chose que pour Pierre, une erreur fondamentale qui doit être corrigée. J'aimais bien un frère qui me disait, lors d'un chapitre général, on entre dans l'ordre pour certaines raisons et on y reste pour d'autres. Et je pense que ça doit être la même chose pour les couples et pour toutes les relations de solidarité dans la durée. Il faut convertir nos motivations à une réalité que nous n'avions pas soupçonnée. Eh bien, Pierre s'est trompé complètement, au point que Jésus va lui dire « arrière Satan ». S'il y a un mot fort, insupportable, c'est bien celui de Satan dans la bouche de Jésus. Imaginez que ce soit à vous qu'on le dise. Voilà, le premier apôtre, le premier pape, comme on dit, se fait traiter de Satan. Et cela n'est pas seulement probablement à comprendre comme un événement historique lointain, complètement dépassé. On a compris maintenant, n'est-ce pas ? Hein ? On n'aurait pas fait la même erreur que Pierre. Hein ? Et surtout, on ne l'a jamais reproduite. Hein ? Non. On voit bien que cet évangile, et c'est pourquoi il est bon de le relire Régulièrement, cet évangile nous dit notre vérité d'aujourd'hui, notre péché d'aujourd'hui. Eh bien, c'est de ne pas accepter ce mystère de l'amour trahi, blessé, parce que c'est insupportable, bien sûr. Mais c'est ce chemin qu'il a choisi. Et pourquoi ? Essayons de le comprendre. Nous cherchons toujours un christianisme triomphant et un christianisme d'auto-affirmation. L'Église experte en humanité, n'est-ce pas, va vous expliquer ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. Or, la pédagogie de Jésus est à l'inverse, c'est celle de la question, de la maïeutique. Pour vous, qui suis-je ? Il s'en remet à nous, et il nous faudra des siècles déjà pour trouver des formules et nous mettre d'accord plus ou moins dessus, quelques grands conciles qui progressivement préciseront ce qu'il en est de la foi. Jésus ne nous évite pas ce temps de réflexion. Donc on le voit ici, essayer de protéger l'amour, c'est le dénaturer. Il est de la nature même de l'amour de ne pas se protéger. Comme il est de la nature même de Dieu d'être vulnérable. On préférait peut-être le Tout-Puissant, celui qui se manifeste en Jésus-Christ, est un Dieu faible, vulnérable et mendiant. Et l'Évangile nous appelle à cette lucidité. Et il s'agit donc d'une révélation qui, d'une certaine façon, s'impose à nous. Si nous voulons protéger l'amour, si nous voulons protéger le sacré, si nous voulons protéger la vérité, je suis dominicain, le mot, le logo, enfin, le slogan des dominicains, c'est Veritas. Et on a fait beaucoup de mal au nom de la vérité. On a fait beaucoup de bien aussi, mais le propre de la vérité, c'est de s'exposer, de se confier, de se révéler, de se donner. Et donc pour que l'amour puisse être de l'amour, il faut qu'il puisse être trahi, il faut qu'il puisse être tué. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur notre liberté, eh bien, il faut que l'on puisse dire non. Il faut que devant la proposition de l'amitié, de l'amour, il y ait une possibilité de refus. Pour qu'il y ait un oui qui soit crédible, qui soit vraiment profond, eh bien il faut envisager la possibilité du non. Et peut-être d'abord le non. Il paraît que les enfants commencent toujours par dire non, pour ensuite pouvoir dire librement oui. Il faut qu'ils testent la possibilité de dire non, pour être convaincus de leur liberté et pouvoir ensuite adhérer en disant oui. C'est peut-être le péché originel, peu importe les grands mots, mais enfin il y a quelque chose quand même comme cela qui montre que l'on commence par le non et on finit par le oui. C'est plutôt réjouissant. Comme on disait hier, que l'on commence par la blessure pour aller vers la résilience. On commence par le conflit. Eh bien, peut-être que l'on commence par la trahison de l'amour pour aller vers le pardon. Donc, il faut que l'amour, en sa manifestation ultime, puisse pardonner et montrer son infinie générosité. Dans pardonner, il y a le mot donner. Et donc, il se donne, il se communique. Et il se communique au point de communiquer le don, la capacité de se donner à son tour, pour qu'ainsi puisse s'établir une réciprocité. On se donne réciproquement. On échange nos paroles de don. Je donne ma parole à quelqu'un qui a donné sa parole. Et Dieu n'avait qu'une parole et il nous l'a donnée, son Verbe, son Fils. Réciprocité du don, connaissez le Cantique des Cantiques. Hein, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et cela vient après la trahison, après la chute, pour qu'alors l'amour puisse rebondir et qu'il rebondisse plus haut qu'avant. Qu'après la mort, il ressuscite et qu'il soit alors plus vivant qu'avant. Et qu'on puisse même chanter dans la nuit de Pâques « Bienheureuse faute ». Et voilà tout ce que rappellent les anges au tombeau vide, quand les femmes éplorées viennent pour embaumer le cadavre avec leurs aromates. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Rappelez-vous, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs. Il faut qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Ceci, vous le trouvez dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 7. Il faut, rappelez-vous qu'il vous l'a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Il faut, il faut, il faut. Verbe insupportable, dei en grec, que Jésus prononce aussi après coup, quand il rencontre les disciples d'Emmaüs, pour les aider à comprendre. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire? Entrer dans sa gloire, c'est-à-dire pour manifester qui il était, pour pouvoir bien montrer tout l'amour qu'il nous portait. Ne fallait-il pas qu'il souffrît? On l'a vu au tout début, l'amour suppose une vulnérabilité. Il faut. Ce sont des paroles d'avertissement de la part de Jésus dans l'Évangile avant que cela n'arrive pour qu'ensuite il puisse se souvenir et après on dit il fallait. Quelle est la nature de cette nécessité? Est-ce que l'on retrouverait ici le tragique grec, le destin, l'ananké, la fatalité? Je pense qu'il s'agit plutôt de le percevoir comme un choix libre, délibéré. Il ne s'agit pas d'être complice, il ne s'agit pas de vouloir le mal, mais de percevoir que le bien que nous souhaitons est tellement fort, tellement important, qu'il n'a pas peur de se proposer au point d'être nié, d'être refusé. Quelquefois je dis, notre Dieu est tellement tout-puissant qu'il est capable d'être faible. Je pense qu'il faut être quelquefois, vous savez, on le voit, il y a des gens qui vont vers les plus pauvres. Mais d'où viennent-ils? Quelquefois, ils viennent d'une famille assez riche. Quand Moïse prend le parti des plus faibles, des Hébreux, il est quand même le fils de Pharaon. Et je trouve qu'il y a comme cela des paradoxes qui font que je me dis, quand on est Dieu, ça doit être difficile de passer inaperçu. Mais il y arrive quand même. Hein? Et il arrive jusqu'à susciter des athées. C'est quand même extraordinaire, quand on est Dieu. Hein? De permettre à des gens de ne même pas avoir idée qu'il existe. Hein? Ou d'avoir complètement oublié qu'ils ont oublié. C'est incroyable. C'est plutôt ça qui est incroyable. Et la réflexion, donc, en l'approfondissement, me conduit à me demander si l'amour, qui donc peut être trahi, qui doit être trahi, n'a pas finalement été trahi depuis toujours. Quand je me pose la question « quand l'amour est trahi ?» et que je me disais « il faudrait qu'il n'y ait jamais de quand ?» eh bien, nous pouvons nous demander si finalement l'amour n'est pas trahi tout au long du temps. Et finalement, si le temps n'est pas l'histoire d'une immense trahison, trahi depuis le début, et nous y survivons. Vous connaissez cette histoire de François d'Assise, hein, dans les Fioretti, quand un compagnon lui demande « pourquoi pleures-tu, François ?» Et il dit « je m'en vais dolent, car l'amour n'est pas aimé. » Il y a là une perception contemplative, mystique, que l'amour habite le temps, qu'il traverse l'histoire. Et il y a de quoi être triste parce que cet amour n'est pas reconnu, il n'est pas accueilli. Il est parfois blessé, même mis à mort. Mais le corollaire de cette perception, c'est que si moi, je suis trahi, si je souffre parce que je ne suis pas aimé, mais je ne suis pas le premier. Un autre me précède. Un autre englobe toute cette souffrance, cette absurdité. Et finalement, nous sommes en communion. Avant donc de toute trahison que nous puissions connaître nous-mêmes, il y a cette trahison-là, fondamentale, universelle, qui nous précède, avec laquelle donc nous pouvons être en empathie, en sympathie, sympathein, nous souffrons ensemble, dans une attente d'une résilience, d'un dépassement, de quelque chose. Et c'est le Christ total qui est trahi. Le Christ lui-même, déjà, en la personne de ses disciples, ensuite tous ses amis, et finalement en chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard, chaque pauvre qui souffre injustement. Je vous cite l'évangile de Matthieu au chapitre 23 au verset 30. Vous dites, il s'adresse aux pharisiens, « si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Trahison de l'alliance, trahison de la relation à Dieu. « Ainsi, vous témoignez contre vous-même, vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. » Et vous allez mettre le comble à la mesure de vos pères. Serpent, engeance de vipère. Jésus a la parole dure. Il reconnaît la perversion dans la religion. Il s'adresse à des religieux. Comment éviterez-vous d'être condamné à la géhenne, cet enfer à quoi amène la trahison de l'amour? C'est pourquoi voici que moi, j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous les tuerez, les crucifierez, en flagellerez d'autres dans vos synagogues. Vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'à celui de Zacharie que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. Tout cela viendra sur cette génération. » Donc on voit que Jésus envoie des prophètes, des sages, des scribes et qu'il ne les protège pas. Pas rassurant du tout. Très très mauvaise publicité. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple vous est laissé, il est désert. Fin de citation. Donc on voit que c'est parfaitement délibéré, conscient, choisi, voulu. Jésus envoie ses disciples comme des agneaux au milieu des loups. Donc vulnérables. Parce que pour témoigner de l'amour, on ne peut pas faire autrement qu'être vulnérable. Pour témoigner de l'amour, on ne peut pas faire autrement qu'être mendiant, pauvre, sans rien, donc à peine une paire de sandales et pas toujours un bâton à la main, aller sans rien. Et vous remarquerez que Jésus ne leur donne aucune consigne sur ce qu'il faut dire. Il leur demande simplement le comment il faut le dire. Et nous, c'est tout le contraire. Nous proposons toutes sortes de choses, de formules, de catéchismes, de contenus à transmettre, alors qu'il ne peut y avoir de transmission que dans le manque. Jésus insiste sur le fait d'aller sans rien, par deux, parce qu'il faut être deux pour pouvoir témoigner de l'amour, de l'amitié, de la parole. Hein ? Et que c'est dans l'accueil que va se vivre l'expérience même de la réciprocité, donc l'expérience même du royaume, de l'amour, de la relation constitutive, disait Marie, parce que si vous ne m'accueillez pas, je vais mourir, mais si vous m'accueillez, vous ferez l'expérience que l'accueil, c'est la vie. Et donc, si vous ne m'accueillez pas, vous refusez le royaume de Dieu. Je peux secouer la poussière de mes sandales et dire « le royaume de Dieu était là et vous ne l'avez pas accueilli ». Dans l'expérience même, nous nous faisons tout le contraire et nous cherchons d'abord à construire des bâtiments, à mettre des bibliothèques. Combien d'étages ? À Bruxelles, nous avons une bibliothèque de 6 étages. C'est tout petit par rapport à la bibliothèque du couvent de Toulouse. Mais enfin, vous voyez, nous sommes souvent dans autre chose. Il y a là une logique très particulière qui est celle de l'Évangile et qui est toujours à retrouver. Et donc, Jésus envoie ses disciples comme des agneaux au milieu des loups et évidemment, ça va se passer mal. Il faut souvent que la catastrophe ait lieu pour que l'on puisse prendre conscience des erreurs que l'on a commises, des crimes réalisés, et que l'on décide alors de faire un monument où on écrit dessus « plus jamais ça ». Il y a chez les êtres humains un processus d'apprentissage qui est dialectique, comme un effet de balancier. Il faut peut-être faire le Brexit pour se rendre compte que ce n'était pas la meilleure solution, et puis se tromper dans la construction de l'Europe pour la refaire autrement. Il faut peut-être passer par des crises au niveau des couples et des communautés. Il faut accepter la crise pour pouvoir comprendre qu'on est allé trop loin. Nous avons déparlé, mal parlé. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et donc, il va falloir se pardonner. Et comment et pourquoi peut-on pardonner à l'être humain ? On pourrait se dire, bon, ben, il est comme ça, il ne va pas changer. Hein. Donc, c'est fini, ça ne marche pas. J'ai été trahi. Allons ailleurs. Eh bien, en fait, l'être humain n'est pas complètement dans ce qu'il fait. Ses actes ne dépendent pas à 100% de sa volonté. Il faut justement qu'il comprenne petit à petit, qu'il apprenne à se réguler. Et donc, on peut lui pardonner parce qu'il est même d'une certaine façon autant victime que coupable. Il s'est fait avoir autant qu'il a fait mal. Il a été induit en tentation. Il s'est trompé. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il faudrait quand même qu'ils découvrent un jour ce qu'ils font. Donc après ces considérations assez théoriques, assez théologiques déjà, nous voyons comment cela meurt, comment cela se vit dans le concret. De fait, l'amour est trahi. Donc il y a l'expérience humaine dont nous avons fait état ces jours-ci. Il y a l'expérience biblique et on pourrait prendre quelques exemples. Déjà de trahison entre membres d'une même famille, entre frères. Vous pensez évidemment au tout premier groupe de frères, Caïn et Abel, bien vu. Et puis après, il y en a d'autres, par exemple Ésaü et Jacob, hein. Jacob qui vole la bénédiction paternelle. Et c'est par là, de fait, qu'ensuite l'histoire passera. Dieu assume ce genre de choses. C'est irréversible. Et puis il y a Joseph et ses frères, on en a parlé hier. Et je trouve extraordinaire, il faudrait du temps pour en parler, de voir comment Joseph va leur apprendre, les initier à une relation différente de gratuité, de bonté pour pouvoir se révéler. Il ne le fait pas du premier coup. Il va leur faire vivre toutes sortes d'expériences un peu pendables, là, avec les histoires de paiement, il retrouve tout, enfin, ça ne va pas. Il les met en crise. Et puis, il y a même des histoires d'inceste dans la Bible. Je ne sais pas si vous le lisez suffisamment, mais par exemple, dans la famille de David, ce n'est pas toujours très propre, hein, entre Amon et puis Tamar, par exemple, qui est violée par son frère. Et puis ensuite, on a un autre frère qui va assassiner le violeur, enfin, et ainsi de suite. Ce n'est pas très drôle. Il y a aussi la trahison entre parents et enfants. Par exemple, entre David et son troisième fils, Absalom, qui a un nom magnifique, Abba, père, Shalom, la paix, et c'est celui justement qui va faire la guerre à David. Un messager vint annoncer à David, le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, debout, fuyons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom, vite partez. Sans quoi il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. C'est radical. Hein, et vous savez que David fuit Jérusalem, il abandonne tout. Hein, et puis la bataille va se faire donc dans la vallée. Et finalement Absalom, avec ses grands cheveux, est pris dans un arbre. Et comme le Christ suspendu, va être tué, le cœur percé. Expérience biblique, il y a aussi l'expérience spirituelle, l'expérience mystique de la nuit, du désespoir, qui peut aller jusqu'au désir de suicide. C'est intéressant de voir que la Bible n'évacue pas cela. Elle le dit clairement. Le prophète Élie, par exemple, vous cite, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, au verset 4, « Il marcha toute une journée dans le désert ». Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort, en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et puis vous connaissez aussi Jérémie, hein, qui a été séduit et qui dit à Dieu « Tu es pour moi comme un ruisseau décevant, sans eau. » Qui s'en prend et qui dit « Malheur à moi, je cite, malheur à moi, ô ma mère, pourquoi m'avoir enfantée, moi qui suis un élément de contestation et de dispute pour tout le pays ?» Je vais plus vite, « Ma souffrance est sans fin, ma blessure incurable, refusant la guérison. » Serais-tu pour moi comme un ruisseau trompeur ? Et puis Job, on en parlait hier, le sommeil me consolera, la nuit m'apaisera. Mais alors, tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des cauchemars. j'en arrive à souhaiter qu'on m'étrangle, la mort, plutôt que mes douleurs. Et vous savez que tout cela va culminer finalement dans la parole de Jésus en croix, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parole adressée à Dieu. Nous abordons donc notre troisième partie maintenant en essayant d'envisager la victoire de l'amour. Et nous voyons qu'elle se présente d'une manière très paradoxale avec une immense discrétion, celle de la résurrection. Nous l'avons déjà aperçu, la trahison de l'amour a été assumée par Dieu depuis le début. Et finalement, la croix n'en est pas le moment. C'est simplement la manifestation ultime, définitive de tout ce qui s'est fait dans l'ensemble de l'histoire. Il y a un trou dans le côté de Jésus ressuscité. On en parlait hier, l'apôtre Thomas manifeste dans son désir de voir que le ressuscité est un cicatrisé, est un homme blessé. Donc nous sommes dans l'après. Nous sommes au-delà de la trahison. Mais cette trahison a été assumée, l'amour est allé jusqu'au bout. L'amour est allé jusqu'au bout sans jamais se renier, c'est-à-dire que la possibilité du retour est toujours offerte, le pardon est toujours offert. Rien ne peut l'empêcher, sinon notre propre refus lorsqu'il se maintient. Donc il peut se produire une sorte de transfert au sens psychanalytique de notre souffrance sur la souffrance du Christ, sur la souffrance de Dieu, de nos trahisons sur celle qu'il a subie et qui nous établit en communion. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Dieu est amour et qui aime connaît Dieu. Nous avons vu que l'amour était vulnérabilité. Pour nous, l'amour n'est plus seulement un mot. Comme je disais, j'aime les frites, les cerises, je crache les noyaux. L'amour, c'est quelqu'un. C'est pas seulement un sentiment, c'est quelqu'un. Et nous savons que aimer, c'est aimer comme il a aimé. Et la victoire est certaine parce qu'elle est la vie même de Dieu. La victoire est assurée. J'ai beaucoup insisté sur la vulnérabilité, sur la faiblesse, sur la mort. Et en même temps, ce qui est curieux, c'est que nous sommes parfaitement sereins parce que nous croyons que la victoire est déjà là. Elle est assurée. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement quelque chose à faire, à réaliser. Ce n'est pas seulement un horizon qui serait là au bout de l'histoire pour ceux qui auront la chance d'en profiter. Dans une société sans classe, réconciliée, etc., etc., où il n'y aurait plus de contradictions. Non, l'amour est là dès le début et il s'est identifié, nous l'avons rencontré. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, il est un et il est trois, parce que pour être l'amour, il faut être plusieurs. Ça paraît bête, mais il y a certaines religions monothéistes qui ne l'ont pas encore compris. L'amour conduit à l'unité, mais en même temps, pour aimer, il faut être plusieurs. Il faut être au moins deux. Et notre Dieu est communauté, il est famille, il est trinité. L'amour conduit à l'unité. Notre Dieu est unique au sens vraiment, c'est un original, mais au sens aussi où il n'y en a qu'un comme ça. Et la résurrection de Jésus est la révélation de l'amour du Père pour lui et pour nous. C'est pas seulement la victoire de l'amour au sens de l'épreuve traversée, courage, j'ai vaincu le monde. Et vous percevrez d'ailleurs que quand Jésus dit j'ai vaincu le monde, il le dit avant d'être ressuscité. C'est déjà fait. au sens où il a aimé à fond, où il ne s'est pas caché, il ne s'est pas protégé, il s'est vraiment donné. Et donc la révélation va être la résurrection va être la révélation de ce lien essentiel, unique, qu'il y a entre Jésus et son Père. Jésus est profondément relationnel. Je dirais il est relatif, presque, absolument relatif à un autre, en pleine relation. Il se dit tout le temps en lien avec le Père, et il n'est pas compréhensible sinon en lien avec le Père. Nous pourrions presque penser que c'est manquer un peu de personnalité quand même, hein ? Bien non, c'est justement une autre forme de personnalité que d'être en relation harmonieuse avec le Père. J'écris un livre qui s'appelle « Le Père retrouvé ». Justement, je crois que nous avons tout cet effort à faire de retrouver le Père. Il faut renaître, il faut entrer dans cet amour, qu'il soit un comme nous sommes un. Toi en moi, moi en toi, qu'il soit parfaitement un et que le monde croit que tu m'as envoyé. Nous sommes appelés à entrer dans cette relation par l'Esprit, qui est cette relation même, et qui nous est offert. Alors le problème, c'est que cela, moi ça me gêne un peu, j'aimerais bien qu'au petit matin de Pâques, on aille réveiller Pilate en lui disant « tu t'es trompé ». Et puis les grands prêtres, pareil. J'aimerais bien quelquefois qu'on me dise « ben oui, vous aviez raison, hein, et puis on s'est trompé ». Mais non, voilà que leur monde continue. Donc il y a cette curiosité d'un amour qui est là, qui est présent, mais qui ne s'impose pas, même à ceux qui l'ont rejeté. Ils auront le monde qu'ils ont voulu et qu'ils ont préparé. Donc deux relations au monde qui continuent, curieusement. Au petit matin de Pâques, Caïphe, Pilate continuent à dormir tranquillement. Et tout commence ailleurs, sur un nouveau chemin. Il y a donc deux mondes. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les disciples ne sont pas non plus du monde, et pourtant Jésus n'a pas prié de les retirer du monde, de les rendre invulnérables ou protégés. Tout cela se poursuit. Et en conclusion, donc, je dirais que l'on le perçoit bien, il est possible, contrairement à ce que je disais dans mon titre, que l'amour ne soit pas trahi, que soit trahi et en même temps qu'il soit vainqueur. Il est d'une certaine façon invulnérable. Il rime avec toujours, en Dieu, qui existe et qui s'est révélé. Solide comme le roc, comme dit le Cantique des Cantiques. Au sein du Père et au sein de Dieu, du Père, du Fils, l'amour est parfait, total, plénier. Et cet amour nous est proposé, communiqué, offert. Et c'est dans sa proposition qu'il est vulnérable. Quand il se dit, quand il se communique. Mais celui qui lui fait confiance vivra. L'amour, lui, ne nous trahira pas. Ça sera ma conclusion. Quand l'amour est trahi, mais en même temps, l'amour s'est révélé comme plus fort que tout, et lui ne nous trahira pas. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra.